France, Russie, anatomie d'une passion.
La fermeté de Macron dans le dossier ukrainien et les menaces de Poutine font plonger la relation entre la France et la Russie dans des eaux dangereuses, des relations glaciales, un nouveau chapitre d'une longue histoire passionnelle qui lie les deux pays, les deux peuples.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Sabine Dulin.
Épisode 3, 1892, l'alliance de la République et de l'Empire.
Si la France est attaquée par l'Allemagne ou par l'Italie soutenue par l'Allemagne, la Russie emploiera toutes ses forces disponibles pour attaquer l'Allemagne. Extrait de la Convention militaire franco-russe signée le 17 août 1892. L'historienne Sabine Dulin est toujours avec moi pour poursuivre notre conversation sur les relations passionnelles entre la France et la Russie. Là, il y a de la passion parce qu'on a quand même quitté les relations au plus bas avec une russophobie très présente et une guerre même entre la France et la Russie en Crimée au milieu du 19e siècle. Et là, on se retrouve à la fin du 19e siècle, quelques décennies plus tard seulement, à une alliance qui est diplomatique, mais dans la discussion, on va montrer qu'elle est aussi très culturelle, très puissante, très profonde. Que s'est-il passé pour qu'en 1892, il y ait cette convention militaire franco-russe ?
Au départ, on est quand même dans du diplomatique et du géopolitique pur.
Ouais.
Parce que, bon, il ne faut pas oublier que la France a eu la défaite avec la Prusse, hein, donc Bismarck, donc la guerre de 1870, qui est une très sévère défaite pour la France. Et à partir de là, je veux dire, l'objectif de la France, ça va être l'alliance de revers. C'est trouver une possibilité de contrer l'Allemagne. Alors, du côté des Russes, au départ, on a plutôt des bonnes relations avec la Prusse. Hein, ça fait partie de cette Sainte Alliance qu'on a évoquée. Mais il se trouve qu'avec Guillaume II, qui est le nouvel empereur, il va y avoir des modifications. Et à cause d'une rivalité dans les Balkans, en fait, Guillaume II de Prusse va décider de soutenir davantage l'Autriche. Et ça va être la signature de la triplice entre l'Autriche, l'Italie et la Prusse. C'est une diplomatie allemande qui, finalement, laisse tomber toute la subtilité de Bismarck qui jouait sur plusieurs tableaux. Et ça fait qu'il va y avoir un intérêt commun des Russes et des Français à s'entendre dans le cadre d'une contre-alliance, en fait, d'une certaine manière.
Une contre-alliance contre nature, parce que, qu'on n'oublie pas, contextualisons un petit peu, en 1892, la France est une république.
Oui,
et alors qui s'affiche comme telle, et la Russie est un régime despotique et qui s'affiche comme telle. Contre nature, est-ce que c'est une expression que vous prenez pour vous aussi ?
Complètement. Alors, peut-être avant, je voulais juste dire quand même qu'il y a quelqu'un de super lucide à l'époque, c'est Tolstoï.
Oui.
Puisqu'il va dénoncer cette alliance militaire et il y voit déjà le germe d'une possible guerre dans justement cette automaticité du soutien à l'autre en cas d'agression. Et donc, on a beau présenter l'alliance comme une alliance de paix, hein, toujours, en fait, lui, il voit bien à quel point c'est dangereux. Et par ailleurs, justement, il revient aussi sur cette alliance contre nature, c'est-à-dire que pour lui, la France de la République et de la liberté ne doit pas se compromettre avec ce régime autocratique, hyper mystique même, hyper religieux et orthodoxe.
Oui.
Alors même qu'on va avoir la séparation de l'Église et de l'État du côté français. Donc là, il y a vraiment d'un côté la Marseillaise quand même qui appelle à faire tomber les rois et de l'autre l'hymne au tsar qui est une prière au tsar comme un dieu. Donc évidemment, on est dans quelque chose d'incroyablement étrange.
Ce qu'on appelle de la réelle politique, là, pour le coup, au sens premier du terme. Mais est-ce qu'il y a des Tolstoï français ? Est-ce qu'en France, il y a aussi des penseurs, des politiques peut-être, ou des intellectuels qui disent la même chose que Tolstoï de l'autre côté, en disant « mais cette alliance, elle va nous mener à la guerre, et puis elle est contre nature ».
Oui, bien sûr, chez les marxistes. Par exemple, il y a Élisée Reclus, qui est un anarchiste géographe, qui est très proche de beaucoup de Russes et de non-Russes, d'ailleurs, de l'Empire russe, et qui dénonce cette alliance, bien sûr, pour dire que là, en fait, c'est de la réelle politique et c'est aussi des intérêts économiques sonnants et trébuchants, parce que la Russie, depuis la défaite de la Crimée, tente de se moderniser et va développer l'industrie. Et là, les capitaux français vont jouer un grand rôle. Donc, par exemple, dans toute l'actuelle Donbass, donc l'Ukraine orientale, qui est une zone très industrielle de l'époque, eh bien, on a toutes les entreprises françaises qui participent au développement de l'industrie, les mines, la métallurgie, etc. Et puis, on a la fameuse histoire des emprunts russes.
Ah oui.
Donc, à partir...
Il va empoisonner les relations franco-russes
à partir de ce moment-là,
tout le long du XXe siècle.
Oui, mais alors, à l'époque, au contraire,
oui.
On pense que c'est le super placement. Et d'ailleurs, il y a l'idée... Enfin, le slogan, c'est « prêter à la Russie, c'est prêter à la France ». À l'époque. Donc, effectivement, ces bons, ces obligations qu'on achète, qui paraissent absolument sûres, puisque c'est pour prêter pour développer le chemin de fer, le transsibérien, etc. Et donc, normalement, l'État russe rembourse sans problème les intérêts. Donc, c'est le placement des bons pères de famille. Donc, toutes les familles, classe moyenne et autres, prennent de l'emprunt russe.
Bon, évidemment. Ce qui est bon pour la Russie et bon pour la France, en fait.
Ce qui est bon pour la Russie et bon pour la France. Et puis alors, il y a alors une propagande autour de cette alliance franco-russe incroyable. C'est-à-dire que les voyages de Nicolas II, donc le fils d'Alexandre III, enfin bref, puisque l'alliance en 1893, elle est nouée entre le président français, Sadi Carnot.
Je dis, vous dites 93, on a dit 92 parce qu'elle rentre en application en 93.
Oui, voilà, en fait, il y a une alliance et ensuite une convention militaire qui est signée. Donc c'est entre 92 et 93. Ouais. Et elle est signée au départ entre le président français, Sadi Carnot, qui va se faire assassiner dans l'année suivante par un anarchiste italien, et de l'autre, Alexandre III, qui lui meurt dans les mois qui suivent. Donc en fait, les deux porteurs de l'alliance franco-russe.
Présage.
Disparaissent. Mais après, on va avoir donc la visite en France de Nicolas II, le successeur d'Alexandre III, et la visite en Russie de Félix Faure. Alors, Félix Faure, vous voyez, c'est pas normalement le personnage charismatique incroyable, mais...
Non, on n'imagine pas un culte de la personnalité pour Félix Faure.
Eh bien, pourtant, si.
Eh bien, voilà.
Voilà, c'est-à-dire que quand il... Alors, il va débarquer à Kronstadt.
Oui.
Donc,
dans les chantiers navals.
Visite des marins, des escadres de marins français et russes à Toulon, puis à Kronstadt. Et à chaque fois, il va y avoir l'inauguration des ponts qui vont se construire, donc le pont très connu en France, donc le pont qui relie le Grand Palais et les Invalides, le pont Alexandre III, inauguré lors de l'exposition universelle de 1900.
Et la première pierre posée en 1896 avec
Nicolas II, voilà.
Ouais, avec un délire russophile
incroyable.
À Paris.
Et de l'autre, on va avoir le pont de la Trinité construit sur la Neva à Saint-Pétersbourg, avec là aussi des débordements d'enthousiasme.
On n'a pas osé l'appeler le pont Sadi Carnot.
Non.
Non.
Non. Et donc, il y a une sorte de petit culte de la personnalité pour Félix Faure, ce qui est quand même improbable, avec son petit costume, parce que lui, c'est quand même un républicain. Donc,
ouais.
il est pas du tout dans tous les apparats militaires du tsar Nicolas II. Bon. Mais il va y avoir, par exemple, les biscuits Félix Faure.
Ah ouais.
Alors, il y a le lancement d'une crème fraîche franco-russe, le parfum Félix Faure.
C'est Alain Delon en Chine.
Et c'est pendant
au Japon.
Et c'est pendant cette période qu'il va y avoir aussi la cigarette russe. Donc c'est les biscuits de l'âtre qui lancent donc en 1891, juste avant le début de l'alliance franco-russe. Ils ont vu que les Russes quand ils fabriquent leurs cigarettes, les fabriquent en travers pour éviter que le tabac tombe. Donc ça va être la forme de la cigarette russe qui est donc la manière dont les Russes font leurs cigarettes avec le tabac. Mais au début, ça s'appelle juste les cigarettes de l'âtre. Et puis...
On parle du biscuit, là.
Du biscuit,
d'accord.
Tout à fait. Et en 1907, ça devient la cigarette russe. Donc là, on est en plein dans la période de la russomania en France, du succès de l'alliance franco-russe. Et donc, on a cette histoire de la cigarette russe.
Et j'avais lu, pour l'avoir un peu préparé aussi, en 1896, lors de la pose de la première pierre du pont Alexandre III par Nicolas II, qui a tout, ce qu'on appellerait aujourd'hui des goodies, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais c'est comme ça qu'on doit l'appeler, des produits dérivés en français, des petites tasses avec Nicolas II, enfin,
complètement.
Mais partout. Mais alors, est-ce que c'est sincère de la part des Parisiens, ou bien c'est une vraie construction presque politique, de politique culturelle, pour essayer de faire passer une alliance contre nature, où il y a une vraie fascination. Aujourd'hui, alors, on peut être aussi fasciné d'ailleurs par la couronne britannique, alors qu'on est une grande république.
Oui, voilà, alors exactement, je pense que c'est intéressant cet engouement, en fait.
Ouais.
Des deux côtés,
c'est
sans aucun doute des choses différentes. Du côté français, on peut se dire quand même que, certes, on est dans la Troisième République, mais il y a plein encore de monarchistes rentrés. La République vient de s'installer. Et sur le fond, il y a eu le ralliement, par exemple, des catholiques à la République, mais
ouais.
c'est quand même un ralliement contraint et forcé. Donc, Je pense qu'il y a une sorte de monarchie par procuration. Là, c'est pas désagréable d'aller jouer à la monarchie en Russie, alors qu'on peut plus tellement le faire en France. Il y a sûrement un public pour ça, hein, le public conservateur français, qui déteste pas l'apparat de la cour en Russie et tout cet aspect-là. Et de l'autre, le fait que le public russe accueille Félix Faure, mais comme si c'était son libérateur, c'est peut-être, malgré tout, l'espoir que de s'allier à la France, ça va aller vers plus de liberté et une évolution du système autocratique. Et après tout, la révolution de 1905, qui tente d'établir une monarchie constitutionnelle, se trouve pendant cette période de l'alliance franco-russe. Donc, je pense que dans les deux cas, il y a aussi des...
Il y a un impensé, des tensions, des tentations. Ouais, c'est intéressant.
Je pense. Derrière cette propagande organisée, bien sûr... Et puis, il y a aussi un autre aspect de cette relation franco-russe, c'est... Donc, tout le monde connaît le succès des ballets russes.
Alors, tout le monde ne les connaît pas, donc on va en dire un mot. Les ballets russes débarquent, Diaghilev, avec son danseur star Nijinsky et d'autres, il arrive à Paris en 1909. Et là, c'est un triomphe énorme.
Sans doute que ça joue sur d'autres éléments dans la société française et dans la société russe, parce que du côté russe, il est clair que... Là, on est dans les avant-gardes artistiques.
Ah oui. Hein.
Donc, on a un Léon Pabst qui fait du presque du cubisme
au
niveau de la décoration.
C'est les décors, oui.
Fokine, qui est chorégraphe et qui met en scène Nijinsky de manière extraordinairement... À la fois, c'est la couleur, le mouvement, des formes d'érotisme, c'est très provoquant.
Bien sûr, ça choque à Paris.
Donc, on a la musique de Stravinsky. Donc on a,
c'est la modernité.
On a la modernité russe d'un côté, qui est donc quelque chose qui est à part dans la société russe. Et en France, ceux qui organisent tout ça et qui sont avec les ballets russes, c'est des gens qui sont, on va dire, dans la lignée des Dreyfusards. Parce qu'à l'époque, on a quand même deux Frances. On a la France très conservatrice. À qui ça peut plaire, l'alliance franco-russe avec Nicolas II ?
Qui achète des tasses avec Nicolas II et son épouse.
Et puis, on a la France plus progressiste, des Dreyfusards, et celui qui organise les ballets russes à Paris, c'est au Théâtre du Châtelet, c'est Gabriel Astruc,
bien sûr,
qui est juif.
Donc, de France, de Russie.
De France et de Russie. Et donc, évidemment, ça veut dire que l'alliance franco-russe, elle coche toutes les cases, d'une certaine manière.
Oui,
donc,
chacun y trouve...
C'est pour ça que, d'une certaine manière, à l'époque, on va dire que la Russie rentre dans tous les foyers français.
Un mot aussi d'un très grand chorégraphe, peut-être celui qui a inventé la danse telle qu'on connaît aujourd'hui, c'est Marius Petipa, qui est un chorégraphe français, mais qui s'installe en Russie et qui va y passer des décennies à inventer tous les ballets quasiment qu'on connaît aujourd'hui, même si beaucoup ont été ensuite retravaillés par Nureyev à Paris. Voilà encore un aller et retour permanent entre les deux pays. Un mot peut-être sur Marius Petipa.
Oui, alors
le bien nommé.
Voilà, c'est juste avant les ballets russes, finalement, c'est la période juste avant.
Oui, qui prépare presque ça.
Voilà. C'est lui qui fait les ballets, le ballet Marinsky. De Saint-Pétersbourg, ballet Mariinsky. C'est lui qui fait les chorégraphies de Tchaïkovski, Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes, etc.
Tous ces ballets
qu'on connaît. Donc là, il y a un vrai métissage franco-russe dans cette affaire des ballets et de la musique. Mais du coup, ça fait qu'effectivement, tous les foyers français connaissent la Russie. Et en Russie, je ne dirais pas que tous les foyers russes connaissent la France, parce que c'est quand même encore un pays de paysans qui est un peu loin de tout ça. Mais en tout cas, dans les grandes villes, on a beaucoup entendu parler de la France.
Un dernier mot peut-être sur l'école de Paris, les peintres russes qui arrivent à Paris, c'est dans ces années-là aussi.
Oui, tout à fait.
Ça fait partie de cette Russie-là d'avant-garde et de modernité.
Complètement, oui. Donc l'avant-garde russe, c'est avant la Révolution russe, et ça continuera après la Révolution russe, mais c'est vrai que ça commence dans ces années de l'alliance franco-russe. De même qu'il y a un succès du roman russe en France très grand, et que dans les romans russes, il y a toujours des moments où on parle français.
Oui.
Chez Tchekhov.
Oui, en Italie, exemple, dans les romans aujourd'hui, mais toujours, oui.
Donc c'est assez frappant de voir ça. Ouais.
Cette alliance contre nature, cette relation passionnelle entre les deux pays, elle va aboutir aussi, et Tolstoï le sentait bien, à la Première Guerre mondiale, où les deux pays sont côte à côte, en tout cas jusqu'à la Révolution russe, et la paix que va signer de manière séparée la Russie avec l'Allemagne, ça marquera une première rupture dans cette histoire passionnelle entre la France et la Russie, ça sera l'objet de notre prochain épisode. France-Russie, anatomie d'une passion, un podcast original de France Inter.